Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Corruption au Kenya, le ministre kenyan des Finances, Henry Rotich, a plaidé aujourd'hui non coupable des accusations de corruption portées à son encontre en rapport avec un projet de construction de deux barrages d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Monsieur Rotich et 15 hauts responsables administratifs ont comparu dans la matinée devant un tribunal de Nairobi pour répondre de plus d'une dizaine de crimes financiers. Ils sont notamment accusés de fraude, d'abus de pouvoir et d'avoir accepté des pots de vin. Tous ont plaidé non coupables. Plus de détails sur cette affaire qui domine l'actualité dans le pays avec Irénée Herman Ongbo.
C'est le directeur des poursuites publiques, Nourdine Hadji, qui a demandé l'arrestation et l'inculpation du ministre Henry Rotich et de 27 hauts responsables administratifs pour fraude, abus de pouvoir, irrégularité financière et autres crimes économiques. Selon Hadji, la conception du projet, l'obtention du marché et le processus de paiement de la construction des deux barrages sont criblés d'irrégularités. Le coût total du projet serait de 450 millions de dollars, mais le ministère des Finances l'a augmenté de 164 millions sans justification adéquate. 180 millions de dollars ont déjà été versés sans que la construction n'ait commencé. 6 millions de dollars avaient aussi été affectés à la relocalisation des riverains touchés par le projet. Mais aucune preuve n'a été trouvée que des terrains ont été effectivement achetés.
Au Nigeria, le journaliste nigérian blessé lundi lors de la manifestation de la minorité chiite à Abuja, la capitale, a succombé à ses blessures. Precious Orolabi, 23 ans, a reçu une balle alors qu'il couvrait les heurts entre la police et les protestataires chiites, précise un communiqué de la chaîne de télévision Channels où le jeune journaliste faisait son service national. Le Comité pour la protection des journalistes a exhorté les autorités nigériennes à mener une enquête pour déterminer qui était responsable de sa mort. Au moins 6 manifestants et un policier ont été tués hier lors des violences à Abuja. Il s'agit d'un nouvel épisode de violence entre les forces de sécurité et les militants chiites de l'IMN, le mouvement islamique du Nigeria, Abdourahmane Dia.
Selon Abdullahi Mohamed Bello, un membre de l'organisation chiite, les manifestants marchaient sans violence et arrivés au niveau du ministère des Affaires étrangères, la police a commencé à tirer en l'air et sur la foule. Il dit avoir vu 6 corps, dont celui d'un mineur. La police a commencé à sortir en nombre et à tirer des gaz lacrymogènes et les manifestants ont riposté en lançant des cocktails Molotov et ont mis le feu à des véhicules de pompiers, a indiqué pour sa part un photographe de l'AFP. Un haut gradé de la police a été tué dans les heurts avec les chiites à Abuja, selon l'agence de presse nationale, qui a ajouté que le policier Omar a été tué par les manifestants en tentant d'empêcher les actions violentes et la destruction de biens. Le porte-parole de la police, Frank Mba, a publié un communiqué pour demander aux habitants d'Abuja, la capitale fédérale, de rester calme. Amnesty International a aussitôt réagi, appelant les autorités à ne plus réprimer la manifestation chiite dans le sang. Les chiites demandent la libération de leur chef Ibrahim Zakzaki, détenu depuis décembre 2015.
Au Cameroun voisin, situation confuse à la prison centrale de Yaoundé, où les forces de défense et de police ont lancé un assaut hier soir suite à une journée de grogne de la part des détenus, parmi lesquels des séparatistes anglophones et plusieurs militants du MRC, un parti de l'opposition. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Peu avant 20h temps universel, les forces spéciales ont lancé l'assaut contre les prisonniers installés dans la cour principale depuis les premières heures de la journée. S'en est suivi des tirs de balles et de gaz lacrymogènes dans l'enceinte de la prison. Il y a eu des tirs de sommation pour faire rentrer les prisonniers dans leurs cellules, a confié sous anonymat une source de sécurité. Des flammes ont été également aperçues provenant de l'intérieur du centre pénitentiaire. Certains compartiments de la prison ont été saccagés par des prisonniers ainsi que des cellules où se trouvent certains anciens hauts dignitaires incarcérés pour des affaires de détournement de fonds publics, des actes de vandalisme diffusés en live sur les réseaux sociaux par les prisonniers. Une heure après l'assaut, des unités spéciales des forces de défense et de sécurité, des sources médicales ont fait état des blessés. Il s'agit des prisonniers, a confié une source sous anonymat. Lundi matin, des personnes interpellées en zone anglophone et actuellement en détention à la prison centrale de Yaoundé ont entamé une grogne pour demander leur libération immédiate et protester contre leur ration alimentaire. D'autres détenus du MRC, un parti de l'opposition, se sont joints à ce mouvement. Le gouvernement n'a pas encore officiellement communiqué sur la situation, mais après le retour progressif au calme, les autorités, le ministre de la Défense et le patron de la gendarmerie sont arrivés tard dans la nuit à la prison centrale de Yaoundé. Yaoundé, Emmanuel Jelouta, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Ebola en République démocratique du Congo, le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a démissionné de ses fonctions 2 jours après la décision du président Félix Tshisekedi de prendre personnellement en main la coordination de la lutte anti-Ebola. Le chef de l'État congolais a mis sur pied une nouvelle équipe d'experts pour mener à bien ce combat, alors que l'épidémie a déjà fait plus de 1700 morts en 10 mois. Que cache la décision du ministre Ilunga? Eddie Sangoajon Abeni, l'éditeur du périodique Les Coulisses, Nikes Kibel Beloka.
Il faut d'abord partir des résultats qui sont mitigés. Vous savez que la maladie a pratiquement dépassé les 1500. Nous sommes autour de 1700 déjà cas de décès. Et avec l'évolution de la maladie, c'est qu'on a retrouvé au niveau de Goma. Naturellement, le chef de l'État devait avoir plus d'éclaircissement. Ce qui fait que aussi l'expert mondialement reconnu qui est le virologue Dr Muyembe qui dirige l'INRB, l'Institut National de Recherche à Kinshasa, n'a pas vraisemblablement apprécié la manière avec laquelle la riposte est menée. Il a quitté le terrain, il est retourné à Kinshasa et naturellement le chef de l'État l'a contacté, il a fait des propositions qui ont abouti à la mesure prise par le chef de l'État, ce qui n'a pas plu au ministre de la Santé. Nous espérons que c'est comme ça que les choses se sont passées.
Dans sa lettre, le ministre parle d'éviter la cacophonie. Apparemment, il veut éviter une confrontation avec le président de la République. Mais quelles peuvent être les conséquences de sa démission alors?
D'emblée, il n'y a pas de conséquences. Il est anormal que le docteur Muyembe, qui est reconnu mondialement et qui a presté au niveau du Libéria, qui a formé des équipes au Libéria et en Sierra Leone, soit spectateur dans son propre pays. Si on veut tenir à sauver la population, le ministre de la Santé qui a œuvré sur le terrain devra faire une remise reprise en bonne et due forme et faire un état des lieux de ce qu'ils ont déjà fait, si on tient à sauver la population. Mais si on entre dans des querelles politiques, bien sûr, il y aura des conséquences. Mais à première vue, il n'y a pas de conséquences, sauf si la politique s'y mêle.
Le ministre se montre réticent par rapport à l'un des vaccins. Il semble qu'il y ait autre chose qui se cache derrière. D'aucuns parlent peut-être d'argent, d'une affaire de gosse ou qu'en est-il exactement, vous qui êtes sur terrain?
D'abord, ce qui est plus important dans cette restructuration, c'est que l'équipe qui est mise en place ou qui doit remplacer l'équipe du ministre de la Santé, c'est une équipe composé des plus grands spécialistes mondialement connus. Au niveau technique, nous pensons que cette équipe vient corriger certaines failles parce que l'équipe Dr Muyembe, pour ne pas les citer, a parlé de certaines failles, a parlé d'une mauvaise approche. Il a même donné l'exemple de l'équipe qui ne gagne pas, on ne doit pas la reconduire. Bien sûr, il y a beaucoup de paramètres, notamment, vous parlez de l'appropriation de la population. Si l'équipe n'arrive pas à convaincre la population, si la population ne se l'approprie pas, et effectivement, il y aura encore échec. Et c'est ce qui ne se comprend pas. Est-ce que c'est lié aussi au problème de la mauvaise gestion? Parce que sous d'autres cieux, notamment en Sierra Leone et au Libéria, les choses sont allées assez vite quand finalement l'Organisation mondiale de la santé a pris les choses en main.
Nikes Kibel Beloka, l'éditeur du périodique Les Coulisses à Beni, dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC. Et toujours en RDC, poursuite des violences dans le nord Kivu, qui est l'une des provinces affectées par l'épidémie d'Ebola. 12 civils, dont 2 enfants, ont été tués à la machette et par balle dans 2 attaques attribuées aux ADF, les milices ougandaises musulmanes des forces démocratiques alliées, dans le territoire de Beni. C'est ce qu'a précisé Donald Kibwana, l'administrateur du territoire de Beni, en soulignant que les tueries avaient eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. L'armée congolaise a confirmé pour sa part ces attaques. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
bougez, bougez.